Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Ils ont été honorés, eux, ce sont les blessés et ceux ayant fait acte de bravoure dans le cadre de l'opération Kondoaré dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays. Ils ont ainsi reçu les décorations de la croix de la vaillance avec étoile, argent ou bronze, ou la médaille en bronze des mains du chef de l'État Faure Gnassingbé. De même, la nation togolaise a rendu lundi 13 janvier un hommage national aux victimes de cette opération, une cérémonie solennelle empreinte d'émotion et de tristesse et présidée par le président de la République Faure Gnassingbé a été organisée dans ce sens au camp général Gnassingbé Yadema à Lomé en présence des responsables des institutions de la République, des membres du gouvernement, des députés, des officiers et militaires de rang et des familles éplorées. Le sujet est évoqué par des journaux parus ce mercredi 15 janvier 2025. Nous allons en parler dans cette émission Club de la Presse. Mesdames et messieurs, bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa sur la mise en onde, Jérôme Dakoucha est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Une salutation fraternelle à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Atakpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, et aussi du continent africain. Nous n'oublions pas le monde entier, puisque cette émission, c'est bien sûr, ça traite alors de l'actualité, et l'actualité dans tout son sens, bien sûr. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, et confrères journalistes, il y a d'abord Justin Anani. Justin, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Dieu merci, on rentre. Je crois qu'en ce début de cette année, c'est la première fois que je suis là dans ton émission.
Tout à fait, puisque le mercredi dernier, vous n'étiez pas là.
Voilà. Bonne heureuse année à tout le monde. Merci. À tous les fidèles de cette émission. J'ai une pensée particulière ce matin à l'endroit d'un ami, très cher d'ailleurs, mais sans Alofa, Benoît Kouvi, un ancien à la retraite qui a perdu sa maman. D'Akaï, reine Bebe Messan Alofa, qu'elle va inhumer le samedi prochain à Lomé. Donc, mes condoléances à lui. Et j'ai également une pensée à l'endroit de toute la communauté roi de par le monde, que ce soit du Ghana, du Bénin, et du Togo, du Nigeria. Vous savez ce que c'est que la communauté roi. Donc, avec le roi Olugbo, mettons aux ans 9, qui a organisé la première édition des princes et princesses rois à Gbanaké la fois dernière. Donc, une édition qui va permettre maintenant aujourd'hui d'unifier donc ce royaume qui, jadis, a été divisé après la conférence de Berlin. Vous savez ce que c'est. Donc, cette communauté qu'on retrouvait dans un royaume avant, aujourd'hui est un peu éparpillée au niveau du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigeria. Maintenant, l'idée de Sa Majesté, Olugbo Meton, est de réunir les rois partout dans le monde à ce que cette communauté-là puisse quand même retrouver ses lettres de noblesse. Parce qu'après tout, il ne faut pas aliéner. Parce que l'aliénation conduit à la destruction. Donc, nous devons toujours penser à nos sources, faire en sorte que nos communautés soient développées. Nous sommes après tout africains, donc il nous revient à nous quand même de développer et notre continent africain.
D'accord.
Voilà ce que j'ai à dire d'entrée de cette émission.
D'accord.
Et j'envoie mes salutations sincères à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
D'accord. Merci beaucoup, Justin, d'être dans cette émission avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Estelle Koudzonou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux techniciens. Bonjour aux lecteurs, lectrices de Gazelle Info et bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Je voudrais d'entrée de jeu exprimer ma profonde indignation par rapport à l'actualité qui est marquée par plusieurs informations, mais principalement le décès de la mineure Justine, devant qui je voudrais m'incliner humblement. C'est juste, on est un peu scandalisé à prendre au fur et à mesure que l'enquête a avancé, les informations ressortent. On tombe des nues, tout simplement. On est vraiment indigné. J'espère que l'enquête va poursuivre son cours et que les principaux coupables et même les complices seront appréhendés et répondront de leur crime, je vais l'appeler ainsi, hein. Je ne vais pas ménager mes mots, c'est vraiment un crime et qu'ils répondront de leurs actes. Apprendre que le monsieur avait déjà deux femmes et que ces dernières étaient aussi des mineurs de 17 ans et 14 ans et que Justine actuellement avait 13 ans avant de passer à trépas suite à ce mariage forcé. Depuis la dernière fois, je manque vraiment de mots. C'est une profonde indignation, ça il faut le dire. Et si on n'est pas parents, on est des potentiels parents, il faut juste avoir de l'empathie pour comprendre réellement ce qui se passe et dire que c'est un papa même qui va remettre sa fille dans la gueule du loup et qui serait en cavale. Sincèrement, je ne sais comment exprimer en fait mon émotion et
non, tout. Je comprends votre émotion.
Mais c'est fort que la justice poursuive la justice poursuive les enquêtes et effectivement que tous ceux qui ont eu vent de cette information-là et n'ont pas réagi, autrement dit les complices, tous ceux qui auraient pu faire quelque chose et se sont murés dans le silence, vivement que tout le monde soit appréhendé pour dissuader d'abord et botter hors de nos frontières ce genre de pratiques.
Et ça, je vous rassure, nous allons en parler tout de suite. Nous allons parler alors de ce sujet tout de suite. Nous en parlions même hier et on va revenir sur le sujet, surtout que ça fait l'actualité. Et tel que vous l'avez dit, c'est une situation qui crée ou qui a créé assez d'émotions et d'indignation, surtout au sein de l'opinion nationale et internationale, parce que déjà, nous suivons également l'information sur les médias internationaux et les médias internationaux en parlent et c'est le nom du Togo qui est ainsi sali parce que les uns les autres se posent la question de savoir est-ce qu'il y a encore de telles situations dans un pays aujourd'hui. Nous allons revenir sur le sujet, le temps de saluer aussi le doyen Abbas Issaka. Abbas, bonjour.
Bonjour. Pascal,
bonjour. Décidément, vous avez hésité.
C'est de l'eau, ouais, parce qu'il y a ce qui se passe.
Ça se comprend.
Heureusement qu'on va revenir sur le sujet.
Non, on va revenir.
Donc, je pense que ça trouble.
D'accord.
Ça trouble la tranquillité mentale. Et il faudrait que les dispositions soient prises. Je salue tous les auditeurs et autrices de la radio, la légende Canal FM, que nous sommes en train de suivre la nouvelle génération.
Justement, merci beaucoup Abbas d'avoir répondu justement à notre invitation. Alors je lis que la journée du 15 janvier, c'est la journée mondiale du migrant et du réfugié. Quand on prend cette journée aujourd'hui, puisque on sait que sur le plan international, il y a assez de journées où on célèbre quand même des thématiques bien précises. Quand on prend la journée alors d'aujourd'hui, journée mondiale du migrant et du réfugié, alors ça doit nous dire quelque chose, ça doit nous interpeller, nous qui sommes là.
Oui, forcément, parce que on constate de plus en plus dans le monde. Les gens se déplacent d'un point A à un point B pour des raisons diverses, soit à cause des conflits, ou soit à cause des problèmes internes, ou soit pour des raisons politiques. Donc de ces cas différemment, il faut quand même apprécier qui il faut appeler migrant, qui il faut appeler réfugié. Donc je pense que il faut faire la part belle des choses. Un migrant, quelqu'un qui a quitté chez soi pour aller s'installer ailleurs. Mais dans quelles conditions? Et je crois que dans chaque pays, il y a une règle qui entoure la façon dont quelqu'un peut immigrer. Et il y a des migrants illégaux parce que n'ayant pas emprunté la bonne voie. Et il y a également des migrants légaux qu'on reconnaisse après avoir établi des formalités et qui correspondent. Et à partir de ce moment-là, vous êtes reconnu comme voilà un migrant dans tel pays avec des titres qu'il faut. Maintenant, un réfugié, lui, il a quitté peut-être sa zone. Ça peut être un réfugié du point de vue interne ou du point de vue externe. Donc, quelqu'un qui quitte peut-être le Bénin pour venir s'installer ici pour des raisons qui lui sont propres. Donc, un réfugié, là, il a également un droit de statut. À partir de ce moment-là, je pense également qu'il y a des formalités qu'il faut remplir. Et à partir de ce moment-là, on reconnaît qu'effectivement, telle personne. Mais dans tous les cas, que ce soit les migrants ou les réfugiés, tout ce monde-là a un droit. Et c'est ce droit à quoi s'intéresse aujourd'hui cette journée, parce qu'au-delà de toutes les considérations, quelqu'un qui a tenté sa vie en traversant la mer pour se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée et qui aujourd'hui se trouve dans un camp, au-delà de tout, il a un droit quand même de vivre. Il a un droit quand même d'avoir le minimum. Maintenant, ne pas le traiter, c'est parce qu'il a quitté son pays dans des conditions un peu obscures et que dans des conditions un peu difficiles avant de venir. Et que le traiter, c'est parce qu'il y a là, c'est un noir, c'est le racisme, parce que c'est un arabe, c'est pour des raisons, pas parce que le traiter comme peut-être un terroriste. Je pense que sur toutes ces bases-là, il faut quand même analyser et voir dans quelles conditions il faut accorder le droit à toutes ces personnes-là, qui sont, que ce soit des migrants ou que ce soit des réfugiés.
Oui, mais je m'intéresse à cette migration illégale et parce que c'est devenu un phénomène même d'ailleurs sur le continent africain, de telle enseigne qu'on voit des âmes quand même qui se détruisent alors dans la Méditerranée. Mais quand vous leur posez même la question, on vous donnera des raisons, et la première des raisons, c'est que on a des conditions difficiles alors dans les lieux de départ.
Oui, c'est ce qui est généralement dit, mais force est de constater que malgré la sensibilisation, malgré tout ce qui se fait, les gens ne cessent de prendre la voie de la Méditerranée à travers les embarquements de fortune. Et les images sont parfois très choquantes de voir aujourd'hui avec le phénomène de filmer les vidéos et tout ça. Tu te rends compte que c'est la surcharge même. Parfois, on se demande si il advenait que tu vas prendre le risque. Pourquoi ces embarquements de fortune sont toujours surchargés? Pour peut-être une capacité de 20 personnes, tu vas avoir à bord 100 personnes, 150 personnes, et ça fait vite de basculer. Donc, la sensibilisation doit continuer. Et quelque part, les raisons évoquées aussi, faut pas qu'on les passe sous silence, c'est une vérité. Quand la condition économique devient très précaire, tout est serré, on a comme impression que l'Eldorado est ailleurs, on est prêt à tous les sacrifices. On oublie qu'on met sa vie même en danger. L'essentiel, c'est d'atteindre la terre promise. Aussi, faut-il l'atteindre, mais on ignore tout. On se dit, on va à la guerre comme à la guerre. Donc, j'ai vu des gens qui menaient des activités ici, après ça ne passait pas trop, qui ont fait même des prêts juste pour pouvoir atteindre l'autre bord à travers ces embarcations-là. Parfois, c'est difficile à appréhender, à comprendre comment est-ce qu'on peut mettre assez d'argent dans ces passages-là avec tous les risques possibles, mais on est confiant. Peu importe ce que tu expliques à la personne, les dangers qu'elle encourt, tout ce qui peut arriver, elle te dit, bon, j'y vais, si j'arrive, tant mieux, si je j'atteins pas, je sais que j'aurais quand même essayé quelque chose. Donc, je crois qu'il y a un travail de fond qu'il faut encore faire, accentuer la sensibilisation et jouer les cartes de telle sorte que les conditions économiques soient également favorables pour la jeunesse, puisque aujourd'hui, cette jeunesse-là, c'est l'avenir. Et si on assiste à ces fuites de cerveau-là, qui viendra développer nos pays pour nous progressivement, on va avoir une population vieille et c'est un peu difficile. Donc, les signaux sont pratiquement au rouge. Je crois que le phénomène devient de plus en plus alarmant et qu'il faut taper du poing sur la table.
C'est vrai que Estelle l'a bien évoqué. Quand il s'agit de cette migration illégale aujourd'hui, on voit plus que la couche qui est plus concernée, c'est la jeunesse. On se demande, mais comment se fait-il que les jeunes veulent partir et dans quelles conditions aussi?
Oui, c'est ce que je me pose comme question, parce que lorsqu'on décrète une journée contre la migration et l'exil, c'est ça, non?
Il faudrait, oui, les réfugiés.
Il faudrait qu'on cherche les causes. Il faut creuser et trouver les racines. Qu'est-ce qui cause ça? Et procéder par des sensibilisations. Parce que les gens quittent. Ils parlent d'une situation délétère, d'une situation précaire. Ces situations font qu'ils n'arrivent pas à tenir dans leur localité. Donc, ils n'arrivent pas à tenir dans leur localité, dans leur ville, dans leur pays. Et ils quittent, ils préfèrent quitter, prendre des risques. Et très souvent, ils sont poussés même par leurs parents. Les parents vont liquider leurs biens, vendre tout ce qu'ils ont comme terrain et tout ce qu'ils ont comme bien précieux pour pouvoir trouver de l'argent à leurs enfants pour quitter le pays et arriver peut-être qu'à l'Eldorado, ils pourraient avoir une situation qui va permettre aux parents d'avoir beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, c'est une situation de sensibilisation, un travail de fond qu'il faut faire puisque après tout, les gens s'appauvrissent pour faire et les jeunes vont risquer leur vie pour traverser la Méditerranée. Et là, il y a beaucoup qui n'arrivent pas. Et lorsque certains arrivent à parvenir à la destination, c'est qu'ils sont bloqués, on les prend et on les emprisonne sans papier. Et ils sont lorsqu'ils vont arriver, ils se cachent, ils n'arrivent même pas à aller faire le travail parce qu'ils n'ont pas de papier. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire la journée-là qu'on a décrétée? Moi, je n'ai pas senti ça dans certains pays, même selon les informations, je n'ai pas senti qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour qu'on sensibilise les parents, on sensibilise les jeunes à plus travailler dans leur pays, faire le développement de leur pays, que de fuir pour dire qu'on fuit la pauvreté pour aller mourir dans la mer. Donc, est-ce qu'un travail est fait exactement dans les pays concernés? On voit comment les gens quittent par des bus, par même des bateaux dangereux et des pirogues. On a vu ceux-là qui quittent le Togo pour aller au Nigeria par bateau très dangereux. Ils quittent du Nigeria pour aller au Gabon et avec des bateaux dangereux ou avec des risques sérieux. Et s'ils n'arrivent pas, s'il n'y a pas d'accident, c'est qu'il y a surtout les femmes qui sont violées même dans ces bateaux-là, dans ces pirogues qu'on les transporte pour amener. Donc c'est des risques que les gens prennent. Et il faudrait qu'il y ait des sensibilisations dans ce sens. Et cette journée dont on a décrété, il faudrait qu'elle soit dans ces conditions de sensibilisation pour arrêter ce fléau. Parce que c'est un fléau, un phénomène qui commence, qui va de mal en pis chaque année. Puisque les gens évoquent que nous avons faim, nous sommes dans la précarité, il faut qu'on quitte. Vous êtes dans la précarité, mais vous arrivez à rassembler beaucoup de moyens, beaucoup de millions pour pouvoir traverser la mer. Mais les millions que vous avez amassés ici, ça peut vous permettre d'ouvrir quelque chose et de faire quelque chose vous-même et avoir de l'argent que d'aller perdre sa vie, d'aller faire des choses. Parce que moi, j'ai vu, mais ça s'apparente à cette situation où les gens, les arnaqueurs les prennent et on les trompe. Eux aussi, ils trouvent de l'argent, ils s'en vont. Et arrivés à destination, tout ce qu'on leur a mis dans la tête, ce n'est pas ça qu'ils vont aller assister. Ici, j'écoutais un jeune ce matin sur RFI qui a été trompé et arrivé en Russie. On l'a enrôlé comme militaire avec quatre de ses amis et on les met devant. D'autres sont morts. C'est lui qui a eu la chance de vivre.
C'est un Camerounais.
C'est un Camerounais. Donc, cette situation-là, on pouvait les éviter que lorsque les jeunes rassemblent l'argent, alors qu'ils disent qu'ils ont faim, c'est la précarité, mais les parents arrivent à rassembler de l'argent pour leur donner. Mais cet argent-là pouvait leur servir à créer un emploi à eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins.
D'accord. Merci beaucoup. Nous allons quitter le sujet.
Oui, non, le sujet est intéressant.
Oui, très intéressant, que, bien sûr.
En écoutant mes confrères parler tout à l'heure, donc il y a deux idées qui m'ont arrivé. Et la première sur l'aspect réfugié. Si aujourd'hui il y avait une journée internationale qui est dédiée à à cet aspect et à cette thématique de qui concerne les réfugiés, je pense que il faut chercher à comprendre ce que c'est. Parce que quelqu'un qui est réfugié, ça veut dire que la personne a quitté son pays. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à quitter sa terre natale et se retrouver dans un autre pays? C'est pourquoi quand vous fouillez un peu, vous allez trouver les réfugiés politiques, les réfugiés peut-être économiques ou des réfugiés culturels un peu partout. Peut-être il y a des gens qui, se donnant à une pratique traditionnelle, ne voulaient pas quand même accepter être peut-être adepte donc de vaudou, parce que étant chrétien ou chrétienne, ainsi de suite. Donc ce volet-là concerne uniquement les réfugiés culturels. Les réfugiés politiques, ceux-là qui sont gérés dans leur pays, effectivement, pour des raisons de prise de position vis-à-vis du pouvoir en place, tout et tout, et qu'arrivé à un moment donné, ils ne pouvaient plus se sentir à l'aise, leur sécurité est menacée, donc à partir de ce moment-là, ils quittent. Bon, il y a encore deux aspects. Mais l'aspect migrant dont on parle ici, qui concerne plus ceux-là qui risquent leur vie, parce que ayant appris que de l'autre côté, il y a de l'Eldorado. Ceux qui sont de l'autre côté vivent mieux, je suis ici. C'est la précarité, en fait. Donc, c'est la misère. Et à partir de ce moment-là, cet aspect-là concerne plus la jeunesse. La jeunesse ne peut pas vivre dans un pays et laisser les gouvernants vivre, aux frais de princesse, et qu'à un moment donné, qu'ils n'arrivent plus à se sentir mieux chez eux. Donc, ces gens-là, quoique il y a du risque de l'autre côté, et ils s'en fichent, ils passent par tous les moyens, peut-être, pour se retrouver de l'autre côté. Ce qui est malheureux est le fait que le parcours pour y arriver est tellement très risquant, mais on ignore, on risque sa vie, quel que soit le prix à payer, on dit, bon, ok, on risque tout, on va aller. Si véritablement on arrive à destination, ça voudrait dire que Dieu merci, donc on s'en sort bien. Mais si on n'arrive pas, mais tant mieux. Et parmi ces gens-là, non seulement il y a les Africains, mais il y a aussi les habitants ou la plupart des jeunes de ces pays du Golfe. Vous savez ce qui se passe également dans ces zones-là. Donc, sur ces aspects, tous ces aspects-là, je pense que c'est fondamental qu'au-delà de tout, que tout ce monde-là puisse avoir le droit. D'accord. Et je finis peut-être pour l'aspect que j'ai développé tout à l'heure, pour ne pas le finir, qui concerne les déplacés. Les déplacés, pour la plupart du temps, ce sont des conflits qui sont des conflits internes, et quelqu'un qui quitte peut-être un village A dans un pays donné, pour aller s'installer dans un autre village, peut-être B, voilà. Pour des raisons peut-être qui a trait à ce conflit.
D'accord, merci beaucoup, Justin. Oui, justement, je me base un peu sur la chute alors de Justin pour introduire justement ce sujet. Si Justine avait vraiment l'opportunité alors de se déplacer, je pense quand même que soit elle ira au Bénin, puisque la scène se passe à Asrama, Asrama qui n'est pas loin quand même alors du Bénin, ou dans un autre village, ou dans une autre contrée comme Ton et ces autres. Et ça nous amène à parler justement alors de Justine. Et Justine, la petite Justine qui n'est plus là aujourd'hui, et vous avez suivi, vous avez narré même d'ailleurs sa situation, le phénomène tel que cela s'est passé au début alors de cette émission. Alors quand on prend un tel phénomène, c'est-à-dire pour une question alors de dette contractée, un parent qui donne sa fille en mariage pour un homme de 45 à un homme de 45 ans, et là, la fille n'a que 13 ans.
C'est fou, c'est tout simplement fou. Depuis la dernière fois, j'ai planté le décor tout à l'heure, je suis allée aux informations, mais j'ai eu certains détails ce matin qui m'ont encore plus scandalisée, c'est ce que je venais de dire. Ça ne se comprend pas, tout simplement. D'accord? Ça ne se comprend pas. D'autant plus que la petite a fait une tentative de fuite. Elle a été rattrapée, elle a été ramenée. Maintenant, du moment où elle a été ramenée, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle aille prendre la décision de mettre fin à ses jours? Justement, c'est la principale interrogation qui a taraudé mon esprit. Maintenant, au-delà de ça, j'apprends que sa première femme dont on parlait, puis on a ouï dire que le monsieur est polygame, il avait déjà deux femmes. Donc pour moi, c'était des femmes âgées, matures et tout et tout. J'apprends que la première femme a 17 ans et que la deuxième femme a 14 ans. Mais là,
toujours des mineurs.
Toujours des mineurs. Donc, on doit se dire que c'est un récidiviste. Est-ce qu'il est en complicité même avec certains parents qui viennent lui offrir ces enfants-là et que peut-être l'argument de « je lui devais », c'est juste un subterfuge pour pouvoir donner du crédit à la chose. Plusieurs interrogations, en fait, taraudent mon esprit. On ne comprend pas. La maman de la fille était où? Est-ce qu'elle est en vie? Elle est au courant de tout ce qui se passe? Ça, je n'ai pas eu cette information. Mais quand on s'apesantit, en fait, sur les faits tels qu'ils ont été narrés, on se demande comment est-ce qu'un parent, un papa responsable, qui a enfanté, peut prendre sa fille et aller, justement, dire, elle a été conduite au domicile du monsieur. Non, je prends ma fille, je l'amène et je dis, bon, désormais, tu le considères comme ton mari, tu es au foyer, quoi. Vous imaginez un peu le choc psychologique qu'on crée à cette gamine-là, peut-être qu'elle ne sait rien de la vie de foyer, la vie de couple, qui n'est même pas, elle-même elle n'a pas encore éclore pour connaître la vie, pour cette gamine. On vient, on la met comme ça dans des situations.
Mais puisque sa place n'est pas au foyer.
Donc les deux femmes qui étaient là, étant donné qu'elles vivent la même situation, bon, elles n'ont pas trouvé vraiment peut-être utile. Elles autres, elles sont déjà là, du coup. Bon, elle autre, elle a encore 13 ans, je ne sais quoi. Donc, on est habitué. Peut-être c'est encore une nouvelle qui est arrivée. Nous la considérons juste comme notre épouse. Elles n'ont pas eu la présence d'esprit de s'organiser peut-être pour... Oui, les trois pouvaient s'organiser. Ou peut-être se confier à quelqu'un d'autre dans cette situation-là pour qu'on... pour qu'on organise en fait leur protection ou s'il faut trouver un chemin pour qu'elles se frayent pour partir. Mais tenter de fuir, qu'on te ramène jusqu'à ce que tu n'ailles à cette décision, il faut juste s'imaginer à la place de la fillette les persécutions qu'elle a dû subir, le pire des cauchemars qu'elle a vécu pour arriver à cette décision. Et c'est vraiment l'occasion d'attirer l'attention des parents, des enfants. S'il y a des situations comme ça, aujourd'hui, il y a des structures qui luttent pour, contre la traite des enfants. Là, on peut sortir la traite des enfants, on peut sortir la pédophilie. Je ne suis pas juge, il appartient au juge de sortir les chefs. Mais le mariage forcé, je crois que c'est le pire des humains sur Terre. Tous ceux qui ont entendu parler de cette affaire-là et qui n'ont pas réagi, je crois que c'est le pire des humains. Ils doivent faire face à la rigueur de la loi, quoi, avec la manière la plus dure, drastique possible, en fait. D'accord. Donc, paix à l'âme encore de la petite Justine et que justice soit faite, quoi.
D'accord, que justice soit faite. Alors, Abbas, vous avez titré sur le sujet ce matin, société décès de l'adolescente de 13 ans, mariée de force. La CNDH interpelle les parents, chefs traditionnels et religieux. Le procureur de Notchin annonce des arrestations. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Parce que je me dis que, comme on l'a dit Christelle tout à l'heure, les faits sont tellement...
Estelle, vous voulez dire?
Estelle, tout à l'heure, les faits sont extrêmement graves. Parce que quand on parle d'un homme 45 ans qui a des femmes de 17 ans, 14 ans, et maintenant il prend la troisième à 13 ans. Ce qui veut dire que c'est un habitué. Ou soit dans le village, il est riche, le riche du village. Lorsqu'il fait des prêts à des personnes, c'est qu'il leur demande en échange leur fille. Et c'est ce qui se passe. Vous allez voir que dans les contrées les plus reculées, ce genre de choses existent. Ce genre de mariage précoce existe. C'est parce que cette situation de Christelle et de Justine est arrivée, que tout le monde a su. La maman même n'était pas d'accord pour que leur fille soit mariée de cette façon. Et la maman a pris la fuite. Elle est partie laisser la fille. En principe, les filles sont ignorantes. À cet âge-là, elles ne savent à quel sens se vouer. Lorsque la maman a quitté...
Surtout dans les villages.
Dans les villages. Si elles connaissaient leurs droits, c'est qu'il y a des associations de défense des droits des enfants. Wilda fait là. Ils devaient aller là-bas pour dénoncer cette situation. Il y a beaucoup d'associations qui luttent pour les droits des enfants. La dénonciation aurait pu amener les autorités à intervenir le plus vite possible et éviter le drame à cette adolescente qui est partie comme ça. Donc aujourd'hui, le procureur de Notchin a ouvert une enquête sur ça. Il y a eu une arrestation.
Le mari, c'est le monsieur en question,
le monsieur 45 ans. De 45 ans a été arrêté. Actuellement, il est entre les mains des forces de l'ordre.
Et le papa de Justine
est en fuite. Donc, le procureur a dit que tous ceux qui sont complices dans cette situation vont répondre de leurs actes. Donc, les recherches continuent, l'enquête se poursuit pour retrouver tous ces messieurs-là qui ont contribué qui ont été complices à la mort de cette jeune fille qui voulait même sauver sa petite sœur qui a 9 ans. Sa petite sœur aussi a 9 ans et elle dit qu'elle ne veut pas voir aussi sa petite sœur mariée de la sorte. La CNDH est intervenue. Elle a envoyé des délégations pour voir dans quelles circonstances les choses sont passées. Elle a demandé que la loi soit appliquée parce que les mariages précoces sont interdits. Le mariage des enfants adolescents 13 ans, 14 ans, parce que les mineurs, puisque l'âge de mariage, je crois que c'était à 18 ans dans le code de la famille et des enfants. Maintenant, ils ont ramené ça à 16 ans.
C'est toujours 18 ans, mais pour les 16 ans, il appartient au juge d'apprécier par rapport
On a ramené à 16 ans.
Il appartient au juge d'apprécier par rapport à 16 ans.
Quelle que soit l'appréciation, je n'ai pas ramené.
C'est juste une précision.
C'est une précision, mais quelque que soit ça, c'est qu'il faut 16 ans. C'est
la loi qui le dit. 16 ans qui sont des mémés.
D'accord. Donc, c'est 16 ans. Il ne faut pas dire que 16 ans, c'est 16 ans, ils ont mis. Donc, le problème aujourd'hui, la CNDH a demandé qu'on respecte cette loi-là, que les enfants mineurs ne soient plus mariés de force et de façon précoce.
D'accord.
Que tout le monde... Et il a demandé la sensibilisation au niveau des parents. Et cette sensibilisation incombe beaucoup plus aux organisations de la société civile qui sont créées pour le fait et aux autorités même de l'État, au ministère même de l'action sociale qui devaient descendre qui devait former des choses de sensibilisation dans les campagnes, puisque les gens ne connaissent pas la loi. La petite, comme l'a dit Estelle, si elle connaissait ses droits, elle allait au moins dénoncer ce fait-là au niveau des organisations de la société civile qui défendent les droits des enfants.
D'accord.
Mais comme elle ne le connaissait pas, elle a préféré prendre une autre décision.
D'accord, nous sommes rejoints par Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Voilà, je sais que vous êtes au courant de cette situation qui fait l'actualité depuis un temps dans notre pays. Alors, et quand on prend... Oui, Abbas parlait tout de suite alors de la sensibilisation des organisations alors de défense des droits des enfants. Mais au-delà de cette sensibilisation, il y a des lois qui régissent même d'ailleurs ces phénomènes et il faudrait quand même qu'on aille à l'application alors de ces lois.
Oui, je crois qu'il faut le faire. Il faut le faire et c'est l'occasion aussi d'appeler à revoir un peu donc les curricula au niveau donc de nos formations élémentaires parce que cette fille-là, je ne sais pas si elle fréquente, mais si elle fréquentait avant donc le DAN, peut-être qu'on l'aurait sensibiliser notamment sur les étudiants sur les bancs à tel moment si vous êtes confronté à telle situation voilà tel numéro que vous pouvez appeler et tout. Je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à pleurer donc cette jeune fille là. Bon, cette jeune fille non, cette mineure, parce que une fille de 13 ans et que monsieur lui se permet seulement de collecter les filles de moins de 20 ans, 17, 14 et 13. Peut-être que la prochaine aura 11 ou 9 ans, qui sait. Donc, c'est un monsieur aussi vicieux. Et je crois que maintenant qu'il est au niveau donc dans les mains de la justice, il faudrait que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur pour envoyer un message fort à ceux qui tenteront également cette aventure. Parce qu'il y a encore, ces vicieux-là qui sont donc surtout dans les milieux les plus reculés au nord du pays. Mais j'ai un peu déploré le silence du gouvernement. Ça, je le dis parce que bien avant le 8, puisque la fille est décédée le 8, bien avant le 8, il y avait eu déjà des alertes, des médias en parlaient et tout, le fait que du moment la fille a fui et tout ça, on a eu un silence radio. La fille est décédée le 8. Le 10, il y a eu un conseil des ministres. Même en hiver, le sujet n'est pas évoqué. Bon, pourquoi? Même en hiver, le sujet n'est même pas évoqué. Vous savez, lorsque le gouvernement intervient dans ce genre de situation, c'est un déclic. Toutes les institutions se mettent en branle. Voyez-vous, toutes les institutions vont se mettre en branle. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'on l'aurait fait depuis que, dans les mailles de la justice aujourd'hui, on aurait tellement donc de témoins, tellement donc de victimes, et puis on en saura davantage sur ce phénomène-là encore, que la fille est décédée. Maintenant, chacun va tirer le drap de son côté, rencontrer donc des contre-vérités, ne serait-ce que pour se tirer des affaires, puisque la principale victime n'y est plus. Donc voilà, si ce genre de phénomène non, se produit dans notre public, il faudrait quand même qu'il y ait, on sent véritablement donc l'engouement, le gouvernement réagit rapidement. On le voit peut-être, comparaison n'est pas raison. Vous voyez un peu, c'est, excusez-moi un peu le terme, c'est un petit Français qui est arrêté, peut-être, ou qui est entre les mains des djihadistes quelque part dans un pays IS. Vous voyez donc le président de la République qui communique là-dessus, qui reçoit donc les familles et tout ça. On veut véritablement qu'il y ait cette émulation-là également au sein de la République pour que les choses puissent véritablement marcher. La ministre de l'Affaires sociales, depuis, je ne l'ai pas entendu parler du sujet. D'accord. Depuis, bon, la CNDH, bravo quand même à la CNDH qui a envoyé une délégation. Sûrement qu'ils ont des antennes hein, dans ces lieux-là, qui ont envoyé une délégation et qui aujourd'hui nous donnent plus d'informations. Mais pour les autres aussi, pour les organisations de défense donc des droits ou bon, ces organisations qui interviennent souvent aussi sur ces genres de sujets, ils n'ont pas aussi tellement les moyens pour avoir des antennes un peu partout. Vous circulez un peu au nord du pays, c'est uniquement la CNDH qui a des antennes un peu jusqu'au grand nord du pays. Mais pour les autres, ils n'ont pas les moyens aussi d'avoir. Il faut avoir un local, il faut du personnel, tout cela, ça s'entretient.
D'accord.
Donc on peut également le comprendre.
Justin, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des lois punitives, bien sûr, et sur le sujet, il y a également les codes, bien sûr, alors sur le sujet, mais il faudrait quand même qu'on arrive à l'application alors de ces codes ou de ces lois punitives.
Oui, tout à fait. Mais est-ce que ces lois-là sont vulgarisées? Est-ce que dans l'opinion, les gens arrivent à maîtriser? Cette affaire de pédophilie, c'est parce que Justine en a trouvé la mort et qu'on en parle aujourd'hui. Sinon...
Mais il y a des enfants qui subissent, c'est ça.
Mais c'est plein. J'en discutais avec un confrère la fois dernière à Nérok au thème de notre émission. Il me parlait que pas plus qu'il y a quelques mois, une fille de 12 ans a été forcé de se marier dans une communauté, suivez mon regard.
Non, dis les choses. Quand on suit ton regard, on voit rien.
C'est dans la communauté à Oussa.
Hein, oui, il faut donner les choses par leur nom. Et peut-être qu'on peut aller faire des investigations et sauver la fille.
C'est bonnet courant.
Et c'est fréquent. C'est fréquent dans cette zone-là. Et puis, il n'y a pas que ça. Dans d'autres communautés, vous allez chez les Jadja, où se passe la scène, c'est monnaie courante. Mais pourquoi on n'arrive pas à sévir? C'est moi, je disais tout à l'heure que les pouvoirs publics sont interpellés. Si c'est un numéro vert qu'on doit quand même laisser à la disposition.
Mais il y a un numéro vert.
Voilà, il faut dénoncer.
Pour la violence.
Voilà. Il faut commencer par sensibiliser, toucher les personnes ressources qui sont concernées et faire en sorte que, quand il y a eu telle situation, qu'on puisse quand même les dénoncer. Parce que la loi interdit et la loi doit être appliquée pour ces genres de cas. C'est vicieux-là qu'on retrouve un peu partout dans les coins. Et c'est parce que, ici, on parle du mariage ailleurs. Il y a des vicieux qui prennent des enfants de 12 ans, 13 ans, qui vont faire le plaisir avec, qui viennent les déposer. Quelle est cette loi-là qui est appliquée contre eux? Moi, je pense que les gens sont un peu malades. Parce qu'un homme responsable, et je ne sais pas par quelle chimie, une fillette de 9 ans ou de 12 ans ou 13 ans va me plaire, au point que je dois sortir avec elle, parce que pour des raisons, je ne sais pas. Les gens sont sincèrement malades. Et c'est le pourquoi moi je dis qu'dans le cas d'espèce, les pouvoirs ne sont pas non seulement interpellés, mais moi je me rappelle également d'un fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'an 2000. Il y a eu une affaire de viol d'une mineure au niveau du restaurant au Kavango, à Lomé ici, où c'était Philippe Delmas a été impliqué.
Il a été jugé.
Il a été arrêté, jugé et déposé à la maison d'arrêt de Lomé. Et par après, on a appris qu'il n'a pas purgé sa peine, mais il est parti par après.
Sur demande de la France.
Oui, je me rappelle encore lorsqu'on parlait également sur ce sujet-là. C'est pour dire tout simplement que les dispositions judiciaires, après juridiques, sont là, mais les appliquer, ça pose problème. Je pense qu'à partir de cette affaire de Justine, donc ça constitue de déclic, il faut aller loin et pousser le bouchon. D'accord. Je déplore pour finir que Et ailleurs, il y a les organisations qui sont des organisations féminines se sont mobilisées. Je parle, je fais allusion à ce qui s'est passé au Sénégal. C'est dans les mêmes conditions qu'une fillette de, je sais pas, 12 ans ou quel âge là, a été assassinée par, c'est pas le camarade de son père. Et il y a eu une grande mobilisation des organisations féminines et il y a même, il y a eu deux manifestations dans le pays.
Mais est-ce que vous avez l'impression que vous ne retrouvez pas cette mobilisation autour de
ces. Je n'en vois pas, parce que en écoutant les Sénégalaises au terme de ces manifestations-là hier, il y a des problèmes d'inceste même qui se passent dans la communauté. Et personne ne dit rien. Je ne dis pas que ça ne se passe pas ici au Togo. Donc, il va falloir également se mobiliser, notamment au niveau des organisations, faire en sorte que l'information puisse quand même passer et commencer par sanctionner.
Justement, alors nous parlions entre-temps alors du numéro vert, c'est le 10-14. Le 10-14, c'est un numéro vert pour lutter contre les violences sexuelles. Et c'est le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au Togo qui a mis en place alors ce numéro vert et destiné à signaler surtout les cas de viol ou de tentative de violence ou de viol, bien sûr. Et oui, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose rapidement?
Oui, je crois. Il faut toujours, la situation est tellement alarmante et préoccupante que je ne sais vraiment comment attirer l'attention. Mais je ne veux pas être prophétesse de malheur ou quoi que ce soit. Je me demande si ce monsieur, si d'aventure, il est libéré après des années tout. Est-ce qu'il va se corriger vraiment ou il va se comporter comment dans la société? Déjà on dit dégradé, la gradation, et puis bon, le retour, je déduis de manière dégradée. Oui, donc il quitte 17, il va à 14, maintenant il est à 13. Bon, prochainement, ce serait une fille de quel âge? Qu'est-ce qu'elle peut... Dans cette affaire, nous sommes tous, nous avons une responsabilité partagée. D'accord? Nous, en tant que professionnels des médias, nous devons accorder aussi un petit temps de sensibilisation par rapport à ces numéros verts-là. Étant donné que nous sommes dans une société aujourd'hui un peu, excusez-moi, de manière triviale, un peu voyou, il faut qu'on sensibilise pour protéger ces mineurs-là. Oui. J'en veux encore pour exemple la petite Josiane, je crois, c'est celle qui avait été violée à Léo 2000. L'enquête, on en est où aujourd'hui?
Voilà.
C'est quoi la suite? Et parfois, des parents même se terrent dans un silence juste pendant dans l'optique de protéger la victime. Puisqu'on se dit, aujourd'hui, si on ébruite cette affaire-là, demain, quand elle aura un partenaire, c'est encore les populations qui vont sortir que cette-là, elle avait été déjà victime d'un viol. Et ça va porter plutôt atteinte à l'image de la fille. Donc, pour ces raisons, on préfère plutôt garder le silence. Donc, finalement, on fait la promotion indirecte du bourreau au détriment de la victime qui traîne des séquelles psychologiques à vie pratiquement. Donc il faut de la mobilisation au sein même de notre société pour dénoncer, pour publier ces numéros verts, la sensibiliser par rapport à la loi. Les lois sont déjà faites, hein. Il nous appartient à nous de nous les approprier. Il faut aller chercher, il faut faire de la sensibilisation autour. Il nous appartient de nous les approprier. Le code de la famille, ça se vend. Le code de l'enfant, ça se vend. Mmh. Il faut nous cultiver et publier ces lois-là pour permettre aux gens de les dénoncer. Et châtier publiquement aussi ces bourreaux-là pour dissuader.
Pour dissuader, c'est vrai, d'accord, ok.
Je voulais nuancer quelque chose. Oui. Tout à l'heure, je disais même que la ministre de l'Action sociale n'a pas réagi. Et il y a quelqu'un qui m'apprend tout à l'heure qu'elle a tuté. Et elle a tuté et puis elle a exprimé sa compassion.
Ça veut rien dire.
Tu es ministre, il y a un fait qui est là, qui est brûlant, mais on me dit que non, qu'elle a tuté. Et il revient à son chargé de com'
aussi cette tweet.
Encore que moi, je ne connais même pas son tweet. Son compte Twitter. Vous voyez, il y a un sujet là, mais sortez de votre confort, allez sur le terrain,
prenez position.
Pour constater les faits. Mais on me dit qu'elle a tuté. Elle est ministre pour tuter. Moi aussi, je peux tuter. Donc, il faudrait que, quand vous nommez ministre, sortez de vos conforts. Quand il y a ce genre de situation, allez sur le terrain. Vous avez des moyens pour ça. Allez sur le terrain, allez constater les faits. Mais restez là dans son ministère, on dit, on tweete pour sa compassion. Moi aussi, je peux tweeter pour la compassion.
Le terrain est dissuasif aussi. Hein. On peut se dire, l'état est en branle, j'ai du pain sur la planche, ça peut dissuader.
C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de sensibilisation. Parce que, il y a toujours dans cette communauté, quelqu'un vient de me dire que dans la communauté Adja, c'est comme ça.
Ouais.
il a donné cet exemple-là.
Et Justin a donné justement l'exemple.
Que dans la communauté Adja, c'est comme ça, on marie les jeunes filles, les mineurs. Maintenant, il appartient au ministère de l'Action sociale, aux organisations de la société civile, de continuer les... Il y a une loi qui protège les enfants. Les textes sont là pour protéger les enfants. Ils ne sont même pas divulgués. Comment on dit ça? Ils n'ont pas été divulgués. Parce que dans les faits fonds de nos campagnes, personne ne lit les textes. Les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un test. Oui, DAF a allé aussi sur le terrain. Elle s'est mobilisée. C'est elle qui est allée même voir pour demander aux gens comment ça s'est passé. C'est oui, DAF qui a donné l'âge des filles que le monsieur là épouse. Donc aujourd'hui, il appartient au ministère de l'Action sociale de descendre sur le terrain au lieu de rester dans son tweet. Et son tweet là, qui l'a lu? Et c'est les organisations de moi, je n'ai même pas vu le tweet. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire du laxisme dans ces situations. La sensibilisation, on l'a fait. Vous avez vu, par rapport aux mutilations génitales, où on a interdit aux exciseuses de faire des mutilations génitales. Ça a marché parce qu'il y a des sensibilisations, il y a des actions qui ont été menées. Aujourd'hui, ces mutilations génitales-là ont diminué et les exciseuses ont jeté leurs couteaux. S'il y en a dans les villages, c'est que ce n'est pas encore visible comme auparavant. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, il faudrait des sensibilisations, aller dans les téléphones de ces campagnes-là, parce que là-bas, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les tests. Ils ignorent ça. S'il n'y a pas de sensibilisation,
tous les tests qui protègent. Cher confrère, permettez qu'on quitte le sujet. Je sais que c'est une situation très, très, très émouvante. Oui, justement, c'est émouvant. Mais on va quitter le sujet puisqu'on aura le temps alors d'en parler dans les jours à venir, bien sûr. Et on parle alors de ce sujet que j'évoquais dans mes mots introductifs pour dans cette émission au démarrage. Alors de cette émission, ça concerne plutôt cet hommage que le chef de l'État ou toute la nation même a rendu aux forces de l'ordre et qui ont été blessés dans l'opération Kondoiré et également aux familles. Il y a les familles également qui sont là, les familles éplorées. Hein, et il y a les journaux qui sont revenus alors sur le sujet. Et, Abbas Issaka, vous êtes revenu sur le sujet. Le Moyen Libéré, vous écrivez grand rapport annuel. Les FAT agissent de façon structurelle et systémique. L'outil de défense face aux menaces sécuritaires et sur le sujet, et vous écrivez un hommage émouvant aux victimes de l'opération Kondoiré. Et autre journal, c'est Gazelle Info SL, vous titrez sur le sujet Opération Kondoiré, vibrant hommage aux FDS victimes. Le journal Le Libéral aussi est revenu sur le sujet. Le journal écrit hommage aux victimes de l'opération Kondoiré, émouvante cérémonie de décoration. Alors, quand on suit toute cette actualité, Estelle, on comprend que, mais là, on a besoin forcément de rendre hommage à ces forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité, surtout alors des populations, notamment du grand nord du pays.
Oui, on va dire tout simplement d'une émotion à une autre. Nous venons de quitter une émotion, nous rentrons dans une autre émotion. C'était vraiment une cérémonie très émouvante la dernière fois. En témoignent les images, les visages des personnes qui étaient là et les victimes même. Vous savez, les forces de défense et de sécurité, nous leur devons respect, gratitude et tous les bons qualificatifs possibles.
Puisque nous avons vu même d'ailleurs des victimes qui se trouvent
fauteuils roulants, qui sont devenus aujourd'hui des personnes à mobilité réduite à cause des attaques de ces ennemis-là, de ces personnes sans tête ni queue là, pour lesquelles, oui, permettez-moi de le dire comme ça,
sans foi ni loi,
ça n'a aucun sens. Ça dit, tu te lèves le matin, tu as tous tes sens, tu te dis, bon, je vais au front, je vais au service, je reviens, et tu deviens une personne à mobilité réduite, quoi. Donc, c'était vraiment émouvant, et je crois que toutes ces forces de défense et de sécurité méritent amplement l'hommage qui leur a été rendu la dernière fois. Vous aurez dû voir même l'émotion au niveau du chef de l'État, même s'il est une personne qui laisse rarement paraître ses émotions. La dernière fois, c'était visiblement perceptible. Tu sens qu'il a été touché par rapport à tous les efforts, les sacrifices que font les forces de défense et de sécurité pour garantir en fait notre sécurité et pour ne céder aucune petite portion de notre parcelle, comme ils l'ont encore témoigné la dernière fois. Malgré la situation, ils ont encore promis loyauté, ils ont promis d'être là à chaque fois qu'un besoin se fera sentir. Et il faut vraiment nous mobiliser autour de ces forces de défense et de sécurité. Il faut de la solidarité pour leur permettre de nous protéger, de garantir ce climat de paix qui nous permet à nous de vaquer librement à nos occupations. Je ne sais pas si vous êtes allé dernièrement dans le Nord. Je ne sais même comment l'exprimer. Les populations sont obligées de se déplacer. Tu parcours des kilomètres, la zone est vide. On te dit c'est parce que cette zone a été victime des attaques et que les populations se sont déplacées. Et tu vois à chaque, peut-être 500 mètres, les forces de défense et de sécurité sont quand même là. Les lieux sont vides, mais elles sont là, elles répondent. Donc, je crois qu'elles méritent vraiment le respect.
D'accord.
Et félicitations à toute la nation pour ce vibrant hommage qui leur a été rendu.
Mais c'est parce qu'avec une telle cérémonie de telle envergure, est-ce qu'on ne l'aurait pas organisé autrement pour que toute la nation soit plus concernée?
Oui, je crois que pour une première, ça a été fait un peu, bon, de manière un peu circonscrite. Mais pour les prochaines fois, je crois qu'il faut... Il faut que ça soit un hommage d'envergure, parce que en réalité nous devons beaucoup donc à ces frères d'armes qui parce que pour notre sécurité aujourd'hui sont devenus donc des personnes à mobilité réduite. Et je voyais un peu le quelques secondes d'échange entre le chef de l'État et l'une de la victime. On lui demandait en réalité ce qu'il a, avec des gestes et tout ça, il montrait au chef de l'État la manière dont les choses se sont passées. Écoutez, lorsque j'ai vu ces images-là et tout, c'est véritablement émouvant. Et la partie qui m'a le plus peut-être marqué avec plus d'émotion, c'est là où on remettait les drapeaux à ceux... aux familles,
oui.
Dont peut-être eux, ils sont véritablement partis, et vous savez, c'est des moments forts. C'est des moments forts parce que ces personnes-là, ils ont choisi donc le métier des arbres. Je dirais que c'est les vrais compatriotes parce que ils se sacrifient pour la nation. Ils veulent quand même que cette nation soit protégée, que ces personnes-là et qui peut-être se lèvent un bon matin pour aller au service, c'est pour aller tuer des gens, ils reviennent et ils sont fiers. Aujourd'hui, depuis qu'ils ont commencé avec l'attaque de Salonga, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à s'implanter sur le territoire national. Ça, c'est déjà un fait. Les FTS se battent nuit et jour, afin qu'ils ne prennent pas possession, ne serait-ce que d'une portion de notre territoire. Ça, c'est déjà encourageant. Maintenant, comment est-ce qu'il faut endiguer ce mal-là? Et quand ils subissent beaucoup plus, donc, aujourd'hui, ils subissent la riposte, et donc ils émigrent vers le côté du côté du Bénin, mais on espère que tous les pays vont conjuguer leurs efforts pour vaincre quand même cette idée là.
Voilà. Finalement, on doit énormément à ces forces de défense et de sécurité.
Beaucoup. On doit beaucoup à ces forces de défense et de sécurité. Et c'est grâce à eux que ces hommes sans foi ni loi, ces terroristes, n'ont pas pu occuper plusieurs de nos zones. Parce que quand tu arrives dans cette zone, Kouloaga, les camps, là où ils sont, les grands camps de défense sont là, les gens se sont déplacés, on parlait de déplacés tout à l'heure, les gens ont quitté les villages pour aller s'implanter. Et le problème, il y a des questions des agriculteurs, les éleveurs qui ne sont plus là. Mais les forces de sécurité et de défense sont toujours là pour défendre l'intégrité du territoire. Et ça, ils méritent ces hommages vibrants que le chef de l'État a organisé à leur endroit. Ça, on ne peut pas. Lorsque vous avez suivi, moi j'ai suivi la scène, j'ai suivi la remise des médailles de bronze en or et autres, et d'argent à certains officiers à des armées et également à ceux-là qui sont à vie restés dans leur fauteuil président, dans leur fauteuil de roulant. Je pense que c'est très très émouvant Même le chef de l'État, je crois qu'il a été courageux, sinon il allait verser les larmes. Quand tu voyais comment les choses se passaient et comment il échangeait avec les victimes, également avec les ceux-là qui sont décédés, les parents de ceux-là qui sont décédés sur le front, je pense que ces hommages sont mérités. Et pour une fois, comme tu l'as dit, c'est que c'est la première fois, Sylvestre l'a bien précisé, c'est une première organisation. Ça va peut-être s'ouvrir la prochaine fois à un hommage mérité public pour que toute la population puisse aussi contribuer, assister. Parce qu'il y a des cérémonies qui ont été organisées. Et c'est à la suite même de ce rapport de l'armée, des forces armées togolaises qui a été fait dans la matinée et dans l'après-midi. Ça a été organisé. Je pense que ça a été bien fait.
D'accord.
Et on pouvait rendre hommage à ces militaires-là qui nous défendent, à ces forces de défense de sécurité qui nous défendent, qui défendent l'intégrité de tout le monde.
D'accord. Merci Abbas. Oui, Justin, c'est vrai, il y a ces hommages qui ont été rendus alors à ces forces de défense et de sécurité qui militent beaucoup pour la sécurité au nord alors du pays. Et il y a beaucoup également qui sont encore là sur le terrain et qui assurent justement cette sécurité. Et il faut que la population tout entière quand même les accompagne.
Oui, forcément, il faut les soutenir. Hommage qui a été rendu à ces hommes la fois dernière mérite que ça soit quand même salué. Et je dirais même que les vrais compatriotes qui pensent véritablement à la défense de la nation, à la défense de la patrie, ce sont ces hommes-là. Mais sauf que je n'ai pas compris. D'abord, la date qui est choisie, surtout que cette date entre la population...
Vous voulez parler du 13 janvier.
Entre la population et les militaires, cette date-là est une date colorée. Je ne sais pas par quelle alchimie on a pu choisir cette date-là. Ce jour-là, la date anniversaire où des Togolais se rappellent encore de leur premier président.
L'assassinat, justement, alors du premier président.
Et cet assassinat ne vient pas des djihadistes. C'est un assassinat qui vient des forces armées togolaises. Et cette date-là est inoubliable dans les esprits. Donc poser un tel acte en rendant hommage à ces vaillants soldats qui défendent non seulement les Togolais, mais la patrie, le fait à cette date-là, c'est ce que moi je n'ai pas compris. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans les années antérieures, avant même l'avènement de Front Gnassingbé à la tête du Togo, la date du 13 janvier se fêtait en grand pompe, défilé militaire par ici, défilé des corps civils et là.
Et c'était la journée de la libération nationale.
C'est ce qui se disait. Alors que c'est la journée de la prise d'otages même du pays. On se rappelle qu'à l'époque, l'hymne national qui était à la tête de nos aïeux a été supprimé. La célébration de la date du 27 avril a été aussi supprimée. Maintenant qu'on a ramené, sous prétexte qu'on est en train de faire la réconciliation, je pense qu'on doit aller au-delà de ces fondamentaux et analyser la situation. Moi, je dis, on aurait pu peut-être choisir le 14 janvier ou même le 15 janvier aujourd'hui pour poser ce stade. Ça donnera encore plus de tonus que de choisir la date du 13 janvier.
Merci, Sylvestre. Je voudrais qu'on dise un mot sur cette situation, la situation politique surtout. Et Sylvestre fait bien alors d'en parler ce matin. Et Sylvestre, vous écrivez pour ce qui concerne, vous citez même d'ailleurs Jules Bafena, lui, c'est le premier vice-président de Nouvelle Vision. Vous écrivez, vous citez ses propos, « Le mal togolais ne réside pas dans l'histoire de régime. Ceux qui incarnent et assurent les fonctions de l'État n'ont pas été à la hauteur. Et 3 points de suspension, le peuple togolais risque alors de disparaître. » C'est ce que vous écrivez à la fin. Et vous écrivez aussi « Malaise à ANC », en parlant alors de l'Alliance nationale pour le changement. Vous écrivez « Robert Olimpio, mais les pieds dans le plat. » Et vous citez ces propos alors de Robert Olimpio. « Chez nous, c'est le narcissisme, c'est-à-dire, moi je sais tout. Ce que je dis, c'est ce qu'on doit faire. » 3 points de suspension.
Vous voulez que je commence par le premier?
Non, voilà, je voudrais...
On va rapidement balancer.
Le dernier, vous
voulez quoi, le dernier?
Le dernier, oui.
Ok, d'accord. Bon, en fait, c'est une situation... Il y a un malaise au niveau de l'ANC, je crois qu'aujourd'hui... Il faut dire les choses telles quelles, parce que depuis
quelques moments, on commence donc des... c'est pas, certains sont exclus et tout, donc dans ce parti. Et depuis, vous savez, depuis décembre, le parti a clairement affiché, a clairement dit qu'ils vont pas participer aux élections sénatoriales. Mais on a été surpris que la dernière fois, sur la liste des candidats, on a retrouvé deux membres de l'ANC, mais qui ont fait acte de candidature indépendante, qui se sont mobilisés, ou du moins qui ont fait acte de candidature, candidat indépendant. Mais ils se retrouvent être peut-être les fondateurs de ce parti-là. Vous prenez un certain Robert Olympio, c'est l'un des fondateurs donc de l'ANC. Ils étaient ensemble depuis l'UFC, ils ont continué avec l'ANC. Mais retrouver un tel personnage à ce niveau, et tout ce qui est dit, vous savez, depuis que la liste est publiée, le monsieur dit qu'il fait office donc de critique de la part de ses collègues de l'ANC. Et je crois qu'il en avait un peu ras-le-bol parce que lorsque vous prenez sa déclaration, quelque part, il disait « je m'en fous ». Vous voyez un peu? Il dit « je m'en fous ». Quand on est arrivé dans cet extrême-là, ça veut dire que la personne en a ras-le-bol. Et puis, il le dit, la partie que nous citons, qu'au sein donc, de notre parti, c'est le narcissisme. C'est chez nous, on dit « je sais tout » et ce que je dis, c'est ce qui doit être fait. Et à un moment donné, il dit non, il faut changer. Il le dit même dans l'interview, il faut changer de stratégie. Il va même plus loin, parce que pour lui, il ne voit pas pourquoi est-ce que l'ANC ne doit pas aller au Parlement. Hein? Il cite, en citant donc l'opposant birman Aung San Suu Kyi, qui n'a eu qu'un seul siège sur les 44 à l'époque, pris par la junte birmane. Elle est allée donc au Parlement, elle a réussi à impacter un peu les choses, on sait ce qu'elle est devenue présidente donc de ce pays-là. Donc il disait que oui, ici, le fait que Jean-Pierre Fabre ne veut pas y aller, c'est bien, il comprend, parce qu'il dit, ça ne fait pas une bonne image que Jean-Pierre Fabre siège. Mais s'il ne veut pas, c'est un scrutin de liste, d'autres peuvent véritablement vouloir y aller.
Mais est-ce que ce n'est pas la position du parti?
Vous voyez que, bon, oui, c'est la position du parti. Aujourd'hui, bon, peut-être que on connaît un peu la manière dont les choses vont se faire. Peut-être qu'il sera exclu. Je dis peut-être, hein, puisque peut-être qu'il sera exclu. Mais il dit que bon, si on m'exclut, ça sera plus défavorable au parti. Ouais, oui, il le dit clairement.
D'accord. Donc, d'accord. Ouais. Alors, oui, SL, 30 secondes pour se prononcer sur cette question politique.
Oui, en fait, ça fait exactement une semaine, on était dans ce studio, on parlait de l'opposition.
Tout à fait.
Les auditeurs ont trouvé que nous en faisions un peu trop. Mais quand un fait comme ça vient encore confirmer, en fait, les problèmes au niveau de l'opposition, qu'est-ce qu'on doit dire? Voilà, c'est un fait. Je disais la dernière fois que les analyses que nous faisons, c'est sur des faits. Vous voyez, un parti de l'opposition ancré comme ça depuis 2000, la scission de l'UFC...
2010.
Oui, depuis 2010 jusqu'à
là. Le 10 octobre 2010,
c'est en
2012. Voilà. Non, c'est le 10 octobre 2010, je crois.
2010, c'était en 2010.
À 10h10, minutes, oui.
Ouais. Vous avez la date en tête.
Oui, oui, voilà.
Donc, finalement, on a comme impression que l'adversaire politique de l'opposition aujourd'hui, c'est l'opposition même, en fait. Ce n'est pas le pouvoir, mais l'adversaire politique de l'opposition, c'est l'opposition. D'accord. On se fourvoie, on se mélange, et après, l'essentiel est ailleurs, mais les problèmes sont entre eux.
Ok, oui, Abbas, 30 secondes.
Oui, je me dis que cette histoire qui se passe au niveau de l'ANC, les choses se passaient là-bas. Mais vous savez que celui qui calmait les choses, voilà, c'est lui qui est parti. Feu,
Patrick Lanson.
Il y a cette situation. C'est le gars qui est calme, paix à son âme, et qui arrive
à modérer.
Il faisait les rancœurs, créait les liens et tout.
C'est ça. Maintenant qu'il est parti, les choses se sortent. L'ANC a des représentants au niveau des conseillers régionaux. Et il a demandé que ces conseillers-là ne vont pas siéger. Aujourd'hui, les conseillers régionaux vont prendre fonction.
Et aujourd'hui, le 15.
Le 15, aujourd'hui. Est-ce que les conseillers régionaux là, qui ont été élus sous la bannière de l'ANC vont accepter de suivre la directive du parti.
Même Robert, c'est un conseiller.
C'est un conseiller. Vous voyez, c'est la situation qui se présente. Donc, tout le monde va siéger.
D'accord. Et jusqu'alors, il n'est pas encore exclu. Donc, c'est au nom du parti.
Au nom du parti. Malgré les invectives de leur président, de l'initiative de tout le parti, c'est qu'ils vont siéger.
D'accord, ok. Merci. Oui, Justin.
Moi, je pense que par rapport à la position de M. Robert Olympio, c'est trop simpliste. C'est tout simpliste parce qu'on sait effectivement ce qui se passe au sein de l'ANC, mais au regard de la situation actuelle, il y a une constitution, la 5e République est colorée. La question est de savoir, est-ce que, en son âme et conscience, M. Robert Olympio accepte à ce que la constitution togolaise de 1992 soit changée de cette façon-là, où on n'a pas passé au référendum, on impose une constitution qui est égale au coup d'État constitutionnel. L'autre problématique est de savoir si tant est que dans le parti, il y a un seul homme, comme il le dit, qui décide tout, qui doit prendre position. Je ne pense pas que c'est à ce moment où il y a eu toute une prise de position des acteurs politiques dits de ce nom vis-à-vis de la 5e République qu'il faut poser un tel acte. Moi, c'est mon analyse. D'accord. Et je pense que si une telle situation existait depuis, il aurait dû prendre position, se démarquer du parti. Et aujourd'hui, peut-être on ne va pas crier à ce qui se passe au sein de l'Union.
Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission. On va écouter aussi nos auditeurs s'exprimer sur les différents sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 ou en 315. Mais bien avant, je vous livre alors ce tweet alors de professeur Kosiwa Zinsou Klassou. Hein, on en parlait entre temps par rapport à la situation de Justine. Bien sûr, il y a la ministre qui écrit « Nous nous inclinons devant la mémoire de cette adolescente victime de mariage précoce qui vient de perdre alors la vie. Ensemble, renforçons notre mobilisation contre le mariage des enfants. Une pratique qui nuit dangereusement à nos filles et compromet l'avenir de notre pays. Utilisons gratuitement la ligne verte Allo 1011 pour signaler tout cas suspect. » Signé professeur Kosiwa Zinsou Klassou, ministre alors de l'action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. Nous recevons notre premier auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Votre nom c'est?
C'est Wiao depuis Mouépé.
Ah, monsieur Wiao depuis Mouépé. Allez-y.
Ouais. Donc, je voulais bondir sur la question de Sylvestre quoi, je ne sais pas le journaliste.
Sylvestre Béni.
Voilà. C'est lui qui a dit qu'il ne sait pas pourquoi le président a fait des cérémonies là, le 13.
Non, voilà. c'est pas Sylvestre.
On a dit que c'est les morts. C'est les morts. Sylvestre Olympio fait partie des morts. Donc, si quelqu'un ne sait pas parler, mais les journalistes aussi vont au fond. Hein. Les journalistes vont au fond. Sylvestre peut aller à Kougaré, il va combattre. Parce qu'on peut lui
dire. Monsieur Yao.
Pardon.
Oui. Oui, monsieur Yao.
Je dis bien.
Je dis,
était dans l'émission avec les journalistes. Ils combattent aussi. Ils combattent. Donc, il ne faut pas rester dans ton coin et tu dis que pourquoi on fait ça sur le 13. Non.
Monsieur Yao. Allô, monsieur Yao.
Pour l'enfant. Donc, on sait que quand on veut doter, c'est-à-dire on veut faire les cérémonies, on veut demander la main à un enfant, il y a des parents qui se présentent là-bas. Donc, tous ceux qui se sont présentés, on a donné l'argent, les 140 de 1000 là, et tous là, on doit les amener à l'abattoir, et tous. C'est ce que moi je dis ça. Bonne émission.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Yao. Je veux juste vous rappeler que c'est Justin Anani qui parlait plutôt alors de la date du 13. Et si nous voudrons aborder les sujets, abordons-les sans émotion et sans passion. Je pense quand même que ça serait très important. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, Nestor, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui, je suis totalement en phase avec les journalistes sur le cas du mariage forcé de la mineure. Mais il y a la vicière qui intervient encore là-bas, parce que le papa de la fille aurait contracté une dette. Donc, c'est le cas de féliciter et d'encourager encore le gouvernement à organiser plus de concours, plus de recrutements. Pourquoi ne pas octroyer quelque chose à tous les bacheliers au Togo? Cela permettrait de booster encore plus l'entrepreneuriat. Et maximum respect au FDS. Sur le plan politique, il n'y a aucune incohérence au niveau de l'opposition. Après tout, les gens doivent vivre aussi, d'où la nécessité d'ouvrir le jeu politique. Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nestor, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, madame Essi. Bonjour.
Je me mets à la pointe, mais... Vous parlez... Je vais parler de la quitte, qui n'est pas normale. Et puis, voilà, il faut punir les gens, je l'avais dit hier. Et puis, je vais vous demander, là, vous êtes là chargé que la NCE soit libérée depuis 2020, 2017, tout ça là. J'ai déjà dit ça aussi. Tout porte à croire qu'il n'y a que qui sont les opposants, puisqu'ils n'ont jamais collaboré. Est-ce que c'est dit dans une république que les gens ne vont pas lire la Constitution pour faire 5 ans? Un mandat de 5 ans, passer la main à plein de partis qu'on a, les 120. Tout le monde allait gouverner, on serait heureux. Mais si, attaquez-vous aussi aux gens qui ont bloqué la République, hein, pour puiser les opposants dans les partis politiques, afin de les affaiblir, les détruire. Pourquoi attaquez-les aussi, hein? Ça ne revient pas aux partis dans lequel on veut faire mal, on veut détruire, hein. Attaquez-vous au régime aussi, qui se livre à ce jeu malsain et exécrable. Merci.
Merci beaucoup, madame Messi, pour votre intervention. Hommage aux forces armées, une chose est de fait, un hommage, l'autre chose est non des moindres, alors est de leur réserver une qualité de vie sur tous les plans, et sans oublier leur famille, des programmes spéciaux pour leur guérison physique et psychologique. Pour ceux qui décèdent sur le champ de bataille, qu'est-ce qui est réservé à leurs descendants qui sont dorénavant des pépites, alors de la nation, c'est important. C'est l'avis d'un auditeur, bien sûr. Allô?
Ah, pasteur, bonjour.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, je vais tout blessement comme ça. Je salue le plateau. Ils font de très belles analyses là-bas. Merci à eux. Bon, mais pour la mineure, on l'a déjà beaucoup dit. On n'a qu'à embarquer tout le monde. La maman avait fui. Elle ne devait pas suivre. Elle n'a pas fui que la petite est morte, mais elle n'était pas d'accord. Bon, ce n'est pas qu'elle doit quitter ce mal, elle doit aller faire une dénonciation pour qu'on vienne au secours de la petite. Aujourd'hui que nous sommes devant le fait accompli, qu'est-ce qu'on va faire encore? Tu vois, ce n'est pas bien. Et on passe par le même canal pour... appeler le gouvernement à s'occuper du peuple togolais. Quelqu'un l'a dit à demi-mot tout à l'heure, cette dette, c'est rien du tout. La vie peut être à la base de cette dette. Ben, ce n'est pas parce que vous en avez à craquer que vous n'allez pas vous occuper de la population. Non, c'est quand même... c'est du jamais vu, hein. C'est du on s'en fout de la population. Bon, pour voir ces ratés, ces manquements, mais nous sommes déjà, nous sommes prédisposés à avoir de ces cas-là, chaque jour que Dieu va faire. Et je vois. Donc, vraiment, ça fait mal, une petite comme ça, sa place n'est pas là-bas, mais juste à trouver de la mort.
D'accord.
Je vous remercie.
Merci, Bob Basile, pour votre intervention et l'intervention ou la réaction que je lisais avant Basile. C'était pour Maghrébé depuis Belgique. Et il y a un autre qui nous écrit « Bonjour les amis, juste pour dire bravo au chef de l'État pour le geste octroyé pour les soldats victimes et les blessés de lutte contre le terrorisme au nord du pays. On dit souvent la vie n'a pas de prix. Combien chaque soldat victime et blessé ont reçu comme dédommagement ?» C'est important, sa voix. Bonne émission, c'est Monsieur Ngamaku. Allô?
Bonjour Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Comment vous allez?
Ça va aussi chez vous?
Ok, chez nous aussi, ça va bien.
C'est Patrick?
C'est Patrick à l'appareil.
Justement, Patrick, allez-y.
D'accord. Alors, c'est un peu regrettable quand même d'apprendre le décès de la jeune fille là. Vraiment, qui sait l'avenir de cette petite. On a perdu quand même peut-être une juriste comme ça ou qui sait, mais sauf que de l'autre côté il va falloir, je ne montre rien à qui que ce soit, mais approfondir les enquêtes, parce que il peut avoir des complices dans cette affaire, il peut avoir des complices du côté des parents de la jeune fille comme du côté du monsieur. Et là, je vois aussi que l'argent a coulé un peu aussi. Donc, il ne faut pas écarter ces pistes-là. Il va falloir voir pour que ça puisse quand même décourager ceux qui sont encore sur cette route-là, pour que nous puissions quand même laisser mûrir l'enfance dans les enfants, pour qu'on puisse construire des élus de demain dans ce pays. Bon, ça, c'est pour finir, pour la question des hommages rendus à nos fautes de l'ordre là. J'aimerais que monsieur, je suis toujours là.
Oui, je serai là.
Voilà. J'ai déploré aussi un petit peu la manière dont le premier auditeur voulait quand même dire quelque chose, mais peut-être que c'est la manière qui n'est pas la bonne. Mais je voulais dire ceci à monsieur Justin. Monsieur Justin, vous savez que de par le passé, au temps des adhémans, vous savez que il y a le rapport des FAT chaque année. Puisque c'est une hypothèse que vous avez posée, que vous, et je sais que c'est personnel à vous, vous vous posez la question pourquoi on a organisé cet hommage à la date du 13 janvier. Je vais vous dire ceci. Le rapport des FAT se faisait depuis le temps des ADEMA, le peu que moi aussi je connais de cette affaire. Donc, et autant, depuis que le président Faure aussi est venu, il y a ce rapport qui continuait, pas se faire. Mais si au cours de cette année, la date est tombée sur le 13 janvier, ben, prends l'eau, tu vois. Il n'y a même pas un lien entre l'assassinat de Sylvanus et ce rapport. Non, il n'y a rien là-dessus. Ben, c'est une date concernée. L'année passée, ou sur le passé, ils en ont organisé. Mais sauf que, très très souvent, on ne rappe pas ça en public pour que vous sachiez qu'il y a le rapport des FAT. C'est ça. J'étais majoritairement à l'écoute. Le peu que je connais, c'est quoi, je veux que ce soit clair pour tout le monde. D'accord. Ça n'a rien à foutre avec la date du 13 janvier. D'accord. Donc, ça, c'est une non-histoire.
D'accord.
Et pour pour finir, moi, j'aurais aussi souhaité que, à la fin de ces hommages-là, que quand même, que le drapeau soit quand même en berne, plus cette fois-ci, pour qu'on puisse célébrer vraiment.
D'accord. Mais merci beaucoup, Patrick. Merci, vous avez été compris. Alors, Patrick, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce mercredi. Nous allons, chers confrères, revenir en plateau et faire un dernier tour de table. Alors, Sylvestre, vous avez écouté les uns les autres se prononcer aussi sur nos sujets ou les sujets débattus ici. Votre réaction?
Non, écoutez, pour le premier intervenant, je crois que c'est Monsieur Huyao. J'ai l'impression qu'il ne nous a pas suivis. Il ne nous a pas suivis parce qu'il dit non, on peut rester dans nous aussi, nous pouvons aller au front et tout ça. Je crois qu'il n'a pas suivi. Nous avons quand même rendu un bel hommage aux FATS et souhaité que pour les prochaines fois, que ce soit une cérémonie d'envergure, que d'être circonscrit par les officiels togolais. C'est ce que nous avions dit. Mais j'ai l'impression que M. Yu a eu un peu agité ce matin, d'ailleurs, trop agité d'ailleurs. Donc, il n'a qu'à calmer ses ardeurs. Pour les prochaines fois, quand il devait appeler une radio, il faudrait quand même qu'il écoute véritablement ce que les gens ont dit avant donc de réagir. Je crois que ça ferait donc de lui un bon huit à haut que ce qu'il a voulu faire là. Maintenant, l'autre chose, c'est que je ne pense pas que nous sommes quand même pris un parti à l'ANC hein, pour ce que tente de dire l'ANC, hein, qu'on a chargé l'ANC. L'une a chargé l'ANC. Il y a des faits, il y a un malaise au niveau du parti, il y a un des leurs qui s'est prononcé et c'est un factuel. La presse a relevé donc le fait aucunement. Hein, autour de nous, je ne pense pas avoir écouté hein, les autres confrères chargés l'ANC. D'abord, on le ferait pour quel intérêt? Nous n'avons pas intérêt donc à charger l'ANC parce que ce parti a beaucoup fait pour le pays. Mais s'il y a un malaise, nous ne devons pas aussi nous priver donc de le dire. C'est un fait, il revient donc au parti de faire une autocritique donc de la gestion ou de la gouvernance du parti, parce qu'on constate beaucoup plus donc que les gens quittent trop le parti, c'est pas bien. Non, c'est tout.
D'accord.
Il y a pas, voilà.
D'accord. Estelle?
Oui, comme d'habitude, je ne commente pas les commentaires des auditeurs, mais je voudrais également faire la précision par rapport à l'intervention de d'Aessi. Et c'est un fait qui a été relevé quand Roberto Olimpio parle. C'est Robert Olimpio. C'était une sorte de liaison, mais ça porte ça donne un autre nom. Robert Olimpio parle, c'est un membre fondateur de l'ANC, donc on ne peut pas prendre ses paroles à la légère. C'est quelqu'un qui est au sein du parti et qui fait une sortie. Donc déjà par rapport à certains faits passés, on a vu le départ de Gomado, on a vu la sortie encore d'un autre enseignant qui était à Kpalimé, et ça fait la troisième qui est sur donc à un moment je crois qu'il faut il y a Ouro Akpo Chanyan qui a déserté, donc véritablement ou visiblement on sent qu'il y a un malaise au niveau du parti et souffrez qu'on en parle pour faire nous nos analyses, sans oublier les neuf qui avaient déjà déserté le parti. Donc si aujourd'hui Robert Olimpio sort ce fait-là, c'est qu'il y a véritablement quelque chose qui ne va pas. Je n'oublie pas non plus Jean-Jacques Pecco de la CENI, à qui le parti a intimé l'ordre de parti, mais jusqu'alors qu'il n'obtempère pas, qui est là. Donc il faut vraiment se poser de bonnes questions et soit revoir la stratégie ou se demander qu'est-ce qui ne va pas à un niveau. N'oublions pas non plus comment est-ce que la scission a été faite entre l'UFC et l'ANC. Est-ce que, sachant que la nature est vindicative, qu'est-ce que les prochains jours nous diront? C'est le wait and see.
D'accord, c'est le wait and see. Abbas?
Non, pas grand-chose à dire, parce qu'il faudrait dire qu'un journaliste est un historien du temps présent. C'est les faits qui se présentent. C'est ces faits qu'il commente. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut que les gens suivent ce que nous disons. On n'invente rien. On n'est pas venu pour dire de n'importe quoi. On fait des analyses sur des situations que nous avons vécues, que nous vivons. On ne peut pas dire ce que nous allons vivre demain, mais c'est du temps présent que nous faisons. Donc, ils aient l'amabilité de nous écouter lorsqu'ils vont faire des remarques qui n'attaquent pas un confrère pour dire que vous avez. Et aussi, c'est des points de vue que nous donnons. Ils n'ont qu'à intervenir pour donner aussi leur point de vue sur la situation que nous avons dit.
C'est ce que nous essayons de répéter toujours dans cette émission.
Toujours, et les gens ne veulent pas nous suivre.
D'accord. Justin?
Bon, qu'est-ce que je veux dire?
Je ne sais pas.
Mais ça, c'est l'est dit. Sauf que les gens ne nous ont pas bien suivis.
Voilà.
Moi, j'analyse une situation donnée. Un 13 janvier 1963, un 13 janvier peut-être 2025 ou un 13 janvier 2020, je ne sais quoi. Et ça reste quand même une date sombre dans la mémoire collective des Togolais. Je salue le travail, le bravo des forces de sécurité et de défense, nos corps habillés, nous en avons également dans nos familles. Les efforts qui sont faits de l'autre côté, on les salue vivement. L'hommage qui a été rendu, ça mérite, et j'ai même dit que ce sont les vrais compatriotes du pays, ça. Les gens qui ont sacrifié, qui ont donné leur vie pour la nation, on en voit peu. Sauf que, le jour qui est choisi, alors que ce jour-là, on nous a dit que bon, peut-être qu'on ira, on va aller peut-être prier pour la mémoire de Sylvanus Olimpio, on va organiser peut-être une manifestation générale pour que cette date-là ne soit plus la date sombre dans l'histoire du Togo. Maintenant, poser un tel acte qui est tellement gravissime, qui mérite d'être salué
moi, je ne pense pas que la date du 13 janvier est bien choisie. C'est ce que moi j'ai dit.
D'accord. C'est pas une question de dire. C'est pas un débat. Permettez-moi de faire la précision. Je crois que ça doit être une simple incidence. Comme on l'a dit tout à l'heure, le rapport des FAT a été présenté le 13. Et c'est en marge de la présentation de ce rapport que la cérémonie a été faite. Donc, quand tu reviens même dire en fait par rapport à l'assassinat de Yadema, aussi faut-il qu'on déclare l'assassinat de Sylvanus Olympio, aussi faut-il qu'on revienne déclasser les documents pour qu'on sache réellement qui a assassiné.
Je pense que c'est pas une question de polémique, mais je dis que prochainement, il serait mieux de ne pas présenter le rapport et tel événement des FAT sur cette date-là. Sinon, ça reste encore une date vraiment sombre.
D'accord. Merci, Justin. Et merci. C'est compris. Merci à Sylvestre Béni d'être passé dans cette émission. Merci, Estelle Koudjanou.
Le plaisir est pour moi.
Merci d'être passé dans cette émission. Abbas Issaka, merci à toi aussi d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir et d'animer ce débat avec vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelé aussi pour contribuer à cette émission avec vos réflexions. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Si tout, prenez soin de vous. Au revoir.